Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre de Société. Bienvenue, chers auditeurs, merci d'être à l'écoute. Nous allons commencer l'émission cette semaine avec Farouk Karim et Frédéric Bérard. Nous allons discuter de politique québécoise, politique canadienne et bien sûr, nous devons revenir sur cette élection américaine dont tout le monde a beaucoup parlé cette semaine. Ce sont nos voisins du Sud, on s'intéresse beaucoup à ça et force est d'admettre aussi que c'est un contexte politique assez propice au spectacle. Hein? Les États-Unis d'Amérique, ces derniers temps et depuis toujours d'ailleurs. Alors quand on est juste à côté de ce spectacle, eh bien on en parle un peu, d'autant plus qu'il peut avoir des répercussions chez nous. Plus tard dans l'émission, nous discutons avec Maître Guillaume Rousseau des audiences entourant là, le recours contre la loi 21 qui est entendu au Palais de justice de Montréal depuis quelques jours déjà. On en a relativement peu parlé cette semaine parce que l'actualité était foisonnante. Puis, en terminant l'émission, Mathieu Bock-Côté revient nous parler de cette élection américaine, de ce que d'aucuns n'ont pas vu venir, c'est-à-dire une performance meilleure que ce que plusieurs n'auraient cru là, pour M. Trump. Alors, allons tout de suite rejoindre notre observateur outaouais, Farouk Karim. Bonjour Farouk Karim, merci d'être avec nous ce midi.
Bonjour Nick.
Et Frédéric Bérard, qui est lui toujours dans le fond des bois, je pense, en Abitibi, chroniqueur au journal Métro. Bonjour Frédéric Bérard.
Salut Nick. Non, je vous parle d'un restaurant, du stationnement d'un restaurant McDonald's dans Villeray, pour être précis.
Ah bon? D'accord. dites-moi pas que vous sortez de votre déjeuner quotidien, c'est ça?
Non, même pas. J'espérais prendre un café avant de vous parler, puis de toute évidence, ça sera pas possible. Alors, on va être prêt pour la mi-temps.
Bon, alors, chers amis, je voulais commencer sur d'autres choses, mais il y a une quinzaine de minutes ou un peu plus, un grand réseau américain annonçait la victoire de Joe Biden en vertu d'une victoire dans les États de la Pennsylvanie, enfin projetée, mais c'était à toute fin pratique une chose faite en Pennsylvanie et au Nevada. Ce réseau, c'est Fox News, alors dont tout le monde connaît ses sympathies, son penchant pour le côté républicain. Alors, on présume que c'est une prévision assez fiable. Frédéric Bérard, la semaine dernière, vous nous avez prédit une victoire Biden. On a réécouté l'émission de la semaine passée dans l'espoir de vous prendre en défaut, vous qui auriez annoncé une victoire étincelante, mais ce n'était pas le cas. Vous étiez assez modéré. Vous devez être heureux aujourd'hui de vos prédictions.
J'étais chanceux, en fait, parce que disons que j'ai eu le goût de prévoir un balayage comme plusieurs autres, mais ce qui m'a retenu, ce sont ces études dont on nous parlait brièvement qui alertaient tous les analystes sur la chose suivante, c'est ne sous-estimez pas le vote pro-Trump qui est discret lors des sondages. Ceci dit, je n'aurais pas cru qu'il l'aurait, que ce même effet-là, un peu comme la prime à l'urne hein, chez les libéraux au Québec. Je n'aurais jamais pensé que ce vote-là puisse être aussi élevé. C'est pas compliqué, là, on est samedi, là, ça fait quoi, 4 jours là, qu'on attend, ni plus ni moins. Donc c'est la preuve qu'il y a clairement une démarcation actuellement, il y a clairement une fracture au sein de la société américaine et ça va bien au-delà de ça, à mon avis. Je pense qu'il y a une fracture en Occident de toute évidence.
Oui, on voit ça un peu partout. On va y revenir dans un instant. Donc, pour parler de cette égalité, de cette fracture dont vous parlez, 70 500 000 voix pour Donald Trump avec 47,5% d'appui populaire contre 50,6%, 74 900 000 pour Joe Biden. Alors, il y a tout de même, ce qui est assez cocasse ici, Farouk Karim, c'est que M. Biden obtiendra vraisemblablement les 306 grands électeurs qu'avait obtenu à la dernière élection M. Trump, et M. Trump qui s'était vanté d'une victoire écrasante à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose qui me dit que M. Biden ne se réclamera peut-être pas de la victoire écrasante malgré tout cette fois-ci. Qu'en pensez-vous?
Non, je ne crois pas. Ce n'est pas le personnage Biden. Je crois que les démocrates et M. Biden vont se comporter comme des bons gagnants et ils ont beaucoup de boulot devant eux, la COVID, les cas explosent aux États-Unis, ici aussi d'ailleurs, mais aux États-Unis, c'est assez catastrophique. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche. Il n'y aura pas eu de temps. Moi, je crois que je suis le conseiller de Biden. Ça a gagné aujourd'hui. On passe au prochain. On ne parle même plus de Trump. Il fait ses affaires lui-même. On ne s'en occupe plus. Il y a quelques mois de transition à préparer qui sont importants, d'autant plus que l'administration Trump, par son incompétence, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour la transition, pour être prêt le 20 janvier et partir la balle au bon. Ils vont se concentrer là-dessus. Je suis content que les réseaux ont annoncé la victoire. Maintenant, c'est Fox, CNN, MSNBC, donc ça devient consensuel. Ça va donner...
On a attendu très, très longtemps. Hein. Il y avait, depuis plusieurs heures déjà, 99 % des voix de dépouillées en Pennsylvanie, notamment, et malgré tout, la marge était mince et on n'osait pas. Ouais, selon ce que je comprends, là, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 35 000 voix d'écart entre les deux candidats pour qu'il n'y ait pas un recomptage automatique dans
Nick,
cet état-là.
Ouais, Nick, là-dessus, là, moi, ça fait deux jours que je sais qu'il va gagner. Je regarde les mêmes chiffres que tout le monde. Je suis surpris que les réseaux ne projetaient pas les victoires.
Alors, ils ont eu peur des partisans de M. Trump. Ont-ils eu peur d'avoir l'air de favoriser Biden, par exemple? C'est quand même pas le cas chez Fox News. Jamais je croirais, comme on dit.
Deux raisons. Premièrement, sur Fox News, il faut comprendre que le bureau de décision de Fox News est complètement indépendant de la chaîne. Hein. Et Fox News était le premier réseau de télévision à donner l'Arizona à Biden, ce qui n'a pas plu d'ailleurs au camp Trump. Ça s'est fait là-même la soirée électorale. Maintenant, il y a 100 jours, on ne sait plus c'est quand, là, c'est 4 jours, 3 jours.
Oui.
Mais voilà, donc le bureau de décision de Fox News a tenu fort contre la pression pendant 3-4 jours parce que les gens de Biden voulaient qu'ils retirent l'Arizona. Donc ça règle le code du bureau de décision. Mais pour les chaînes, pourquoi l'attente? Je crois qu'il y a deux facteurs. Un, étant donné que c'est serré, étant donné le contexte, étant donné M. Trump, étant donné la charge, il voulait vraiment, vraiment être le plus prudent possible. Dans n'importe quel autre cycle électoral, avec n'importe quel autre président sortant, je crois qu'on aurait su les résultats il y a deux jours.
Faut que je vous relance une seconde, Farouk Karim, sur ce que disait Frédéric Bérard il y a quelques instants, l'écart entre ce que les sondeurs avaient prévu et le résultat actuel, qui serait, selon Bérard et d'autres d'ailleurs, dû au vote honteux, le vote gêné, le vote discret pro-républicain. Est-ce que ce seul facteur-là explique cette disparité entre les prédictions et la réalité? Beaucoup d'autres disent que les sondeurs sont biaisés, tout ça est orienté. Je veux pas dépeindre, me moquer d'éventuels théoriciens du complot, mais est-ce qu'il y a quand même un problème là de fiabilité des sondeurs américains?
Mais c'est pas la fiabilité des sondeurs, la remise en question de la fiabilité des sondeurs, elle n'est pas juste américaine. Un peu partout, en raison des changements technologiques, la difficulté de rejoindre les gens, mais aussi que les gens ne sont plus de père en fils, de mère en fille, dans des positionnements politiques qui suivent de génération en génération. C'est très hétéroclite, donc ça devient de plus en plus difficile de suivre ça. On rajoute à ça ce que Frédéric a mentionné avec justesse, le vote discret, Trump, qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire ceux qui ont honte de le dire publiquement, mais qui le font dans la boîte de l'urne. J'ai vu des chiffres passer hier, parce que là, on a eu le temps de voir plein de chiffres en attendant les résultats. Un sondage très intéressant, qui est très évocateur. La question était posée aux partisans des deux camps, de Biden et de Trump. Quel pourcentage de vous qui appuyez Biden ne le dites pas à vos amis ni à vos collègues de travail? Pour le camp Biden, c'est 8 à 9 % de gens discrets qui ne le disaient pas à leur entourage. Dans le cas de Trump, c'était 20 % et donc, il y a un vote discret de Trump, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs se manifester. J'apporterai une nuance sur l'analyse du vote, parce que je vois déjà les gens qui commencent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez les démocrates. Ils étaient trop à gauche, pas assez à gauche, trop socialistes, des fans de police.
Ah ben là, on se chicane chez les démocrates. Certains disent que la performance moins bonne que prévu est due à une sorte d'effet Catherine Dorion venant de Alexandria Ocasio-Cortez. Mes excuses à Mme Dorion, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Non, je l'entends aussi. Moi, je veux juste mettre un bémol là-dessus. Je ne sais pas ce que Frédéric en pense. Premièrement, on n'a pas tous les résultats. Fait que c'est difficile de faire une analyse quand on ne sait pas exactement tous les chiffres. Rappelez-vous de la mi-mandat de 2018. Le soir de l'élection, les démocrates avaient la gueule à terre. On n'a pas eu notre vague. Deux semaines plus tard, c'était la plus grosse vague de la mi-mandat en 40 ans. Fait que attendons de résultats avant de commencer à s'entre-déchirer chez les démocrates, premièrement. Deuxièmement,
Je suis pas sûr qu'ils vont vous écouter, hein, mais...
Ouais. Deuxièmement, n'oublions pas le système américain. Depuis 2000, la présidence américaine, c'est une majorité de démocrates qui votent pour la présidence, sauf pour 2004. Le Sénat, c'est une majorité de gens qui votent pour les démocrates, mais le système fait en sorte que c'est une majorité républicaine. Dans la Chambre, le redécoupage électoral fait en sorte que les démocrates doivent toujours surperformer par 5-6 points de pourcentage pour espérer obtenir la majorité. Il y a un biais systémique dans les institutions américaines qui fait en sorte que le sort de la majorité n'est pas reflété. Et donc, avant de critiquer le positionnement des démocrates progressistes ou non, trop ou pas, il faut d'abord comprendre que c'est un positionnement qui donne une majorité d'électeurs aux États-Unis. C'est peut-être pas reflété dans le système de représentation, mais dans la population, c'est une majorité.
Frédéric Bérard, on a vu cette semaine deux représentations très, très distinctes à travers les discours, différents discours, différentes sorties publiques. Là, il y en a eu quelques-unes, deux ou trois peut-être, de M. Trump et Biden successivement. Hier soir, M. Biden, dans une sorte d'adresse très, comment dire, moche. C'était très, très, très froid, très terne. On a l'impression que M. Biden espérait se présenter devant ses troupes en célébrant la victoire. Puis finalement, ça faisait un peu patate. On n'était toujours pas rendu là. Et puis, la veille, Donald Trump, dans cette sortie cataclysmique, jonchée de jalonnée d'accusations exorbitantes sur la fraude électorale, enfin, tout le vacarme habituel de M. Trump. Au-delà de la teneur des accusations là, proférées par M. Trump, je ne parle pas de la teneur de ce qu'a dit M. Biden, parce qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans, soyons francs. Est-ce qu'on s'est encore une fois laissé prendre au jeu des pitreries de Donald Trump qui, au fond, là, essentiellement s'affaire à faire le plus de bruit possible autour de sa personne, toujours, tout le temps, et depuis le tout début de son passage, d'ailleurs, depuis le début de sa vie ou de sa carrière d'homme public, mais aussi dans son passage en politique. Autrement dit, là, est-ce qu'il en restera vraiment quelque chose de ces accusations de fraude et le reste?
Ben, rapidement, si vous avez trouvé Joe Biden terne, selon vos propres termes, Nick, je vous dirais de vous habituer, parce que vous en avez pour un bon 4 ans. Là. Si il sera au bout de son mandat sans tomber endormi, mais cela dit, moi, que Biden peut faire toutes les siestes qu'il souhaite. Comme j'expliquais, j'aurais mis un melon d'eau à place de Trump. J'aurais été satisfait. Alors, quand même que c'est un petit vieux qui va faire dodo aux 5 secondes, moi, ça me va parfaitement.
Vous êtes épouvantable, Bérard.
Oui, je le sais, mais je l'assume totalement. Par rapport à
surtout
Trump,
qu'à votre âge, moi, je me permettrais pas trop de me moquer.
Ce que je trouve le plus dur ces temps-ci, c'est de pas faire ma sieste à 1 heure. Alors, je sais très bien de quoi je parle, Nick.
Bon.
Mais pour le reste, face à part, en rapport à Trump, moi, je pense pas qu'il va rester quoi que ce soit. Sauf, évidemment, si ces gorlots là, qui sont achetés des AK-47 au Walmart la fin de semaine dernière.
Oui, mais enfin, c'est la pointe de l'asperge, comme disait Jean Perron. C'est le côté burlesque de l'affaire. Mais il y a quand même un mouvement Trump qui a commencé, au fond, bien avant. On pourrait dire avec Sarah Palin, qui voyait la Russie de son balcon. Oui. Encore là, je me moque, mais il y a ce mouvement populiste ou défiant vis-à-vis des élites. Il n'y a pas que du faux et du trompeur et du trompé là-dedans.
Non, évidemment, mais on peut, à mon avis, moi, ce que j'ai toujours pensé en rapport à Trump, c'est pas tant lui qui est dangereux que, en fait, il l'était, là, on s'entend bien, puis il l'est encore en quelque sorte, mais ce qui est encore davantage dangereux, c'est le livre de recettes de Trump. Moi, j'ai une obsession, on en a déjà parlé, vous et moi, pour Bolsonaro au Brésil, notamment, qui a repris les 10 commandements trumpistes, puis qui leur a ajouté une espèce de petite épice locale. On voit ce qui se passe en Europe, ici et là. Ce modèle-là de populisme, en quelque sorte, a démontré un potentiel de succès. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, Trump est entré au pouvoir en 2016 avec ces recettes-là. Hein, moi, je me rappelle très bien, si peut-être que vous en souvenez aussi, quand il avait promis le Muslim Ban, notamment le fait de ficher des musulmans. Moi, quand il est sorti en campagne électorale en 2016, J'ai dit, bon, ben voilà, il est allé trop loin, il a franchi la ligne, c'est bingo, c'est réglé, on n'en parle plus.
Ah ben non, ça a eu l'effet contraire, évidemment.
Voilà, exactement, mais... j'étais totalement planté. Et donc, ça pour dire qu'on savait que ça allait être ce genre de gars-là. Il a agi de cette manière-là, de A jusqu'à Z. Vous l'avez très bien décrit, à mon avis. La recette d'un piste, c'est de faire un vacarme épouvantable autour de lui et créer une division, notamment à travers des mensonges éhontés. Ce gars-là, le record du monde pour un politicien, ce qui est pas peu dire. Et évidemment, après avoir créé cette espèce de division sociale sur à peu près tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Alors, imaginez le nombre de populistes actuellement qui ont vu ce modèle-là et qui ont dit, le gars est devenu premier, il est devenu président des États-Unis. Il n'a pas passé si loin de remporter son deuxième pari non plus. Et ça, donc, en d'autres termes, pour faire une histoire courte, ça risque de faire des petits. Ça a déjà fait des petits. Reste à voir jusqu'à quel point, parce que ce mouvement-là est lancé, est créé, est fort. Quand on parle de fracture, c'est ça, c'est pas une vue de l'esprit. Ça existe bel et bien. On l'a en pleine face. On en a ici aussi au Québec. Évidemment, de manière moins importante, c'est clair, mais ça existe, ce mouvement-là.
Oui, bien sûr.
Mais comment on y répond, je ne sais pas.
Farouk Karim, Frédéric Bérard parle de la manière, de la méthode, il parle de l'approche populiste, si on veut. Je reviens à ma question de départ. Il y a quand même un fond derrière ça. Bérard évoquait cette volonté de ficher certains musulmans, par exemple. Est-ce qu'on peut blâmer les populations occidentales d'avoir une crainte face aux intégristes religieux à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire? Et est-ce que de ce fait, la gauche ou les progressistes n'ont-ils pas un peu échappé le ballon sur ces questions-là? Ce qui fait qu'après, un Trump arrive et casse tout, évidemment, en faisant beaucoup de bruit. Il casse aussi une forme de rectitude politique qui déplaît aux gens et qui est, il faut bien le dire, le fait de cette gauche et de ces progressistes-là qui répète toujours pas d'amalgame, il faut faire attention, soyons ouverts, et le reste, ne soyons pas racistes, vous êtes des racistes et des machins phobes et ceci phobes et cela phobes. Il n'y a pas un problème là à régler?
Oui, effectivement, mais bon, dans la mesure où on crée deux camps, et deux camps seulement, appelons-les la grande tante Trump et son opposant, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la grande tante woke, du wokisme. Disons que c'est ça, appelons ça comme ça. Le Trump versus le wokisme.
Alors, les woke, ce sont les éveillés, la gauche voilà. Très progressiste universitaire. Voilà. Bon. Qui vous traite de machin phobe à tout
voilà.
Bout de
champ? Bon, voilà. Fait qu'on a ces deux grandes tantes-là. Disons que c'est les deux seuls choix qu'on a de positionnement politique. Mais, écoutez, si on force les gens à faire des choix, il se peut qu'ils se retrouvent dans une tente avec des gens pas commodes. C'est-à-dire qu'il se peut que des gens se retrouvent dans la tente Trump sans être des néo-nazis. Mais l'affaire, c'est que dans la tente Trump, il y a des néo-nazis.
Oui, de la même façon qu'il y a des intégristes peu recommandables dans l'autre tente, ou du moins alliés objectifs. Oui.
Oui, mais par contre, après ça, on pourra débattre qui est le plus grave, qui est le plus dangereux aujourd'hui en territoire occidental américain.
Mais donc, vous refusez ma thèse du Trump, du populisme, comme résultat d'une difficulté de la gauche de se brancher sur les gens?
Moi, je crois que la vraie, et Frédéric a mis le doigt dessus en entrée de jeu, la vraie bataille, c'est une bataille d'identité, d'une perte d'identité d'un bord et de reconnaissance d'identité de l'autre bord. Et à cause des mouvements de population, c'est là qu'on est rendu. On est dans cette ligne de fracture-là, et à un moment donné, il faudra faire un choix.
Bon, on voit bien les zones urbaines contre les régions, c'est plus marqué que jamais. Ça ne cesse d'être de plus en plus marqué comme clivage, là. Vous voyez un État comme le Nevada, c'est parfait. Vous avez Las Vegas et Reno qui sont bleus, et tout le reste du territoire qui est rouge. On voit ça partout, on voit ça au Québec aussi, d'une certaine façon.
Joseph Facal, ce matin, fait une chronique, et fait une comparaison Montréal et les régions, un peu comme Trump et les démocrates aux États-Unis. Je trouve ça très, très, très dangereux, honnêtement, comme chronique ce matin. Les gens ils vont lire ça. Je trouve que il faut baisser un peu le ton. Là. Puis je crois que le fait que Trump évidemment n'est pas la cause, c'est une manifestation, hein, c'est une conséquence de tout ça. Ça existe, la division aux États-Unis, c'est pas nouveau, c'est pas Trump, ça existe toujours. Aux États-Unis, quand tu gagnes une élection 52-48, là, c'est un raz-de-marée. Je veux dire, c'est 50-50, ça existe, là, c'est très ancré. Donc, faut pas voir gagner à 51% comme étant ouais, c'est difficile. Les présidents, là, à part si on Reagan dans des cas exceptionnels, généralement Obama a gagné avec 53% du vote. Donc il faut voir ça dans ce contexte-là. Mais moi, je suis d'avis que on est rendu à un point où il faudra faire un choix. Comment on vit ensemble? Parce qu'en ce moment, il y a deux camps, manifestement, qui grossissent de deux bords. Il y a plein de gens de bonne volonté en passant dans les deux camps, hein, mais qui sont obligés de faire des choix. Et des fois, ils font des choix et ils se retrouvent avec des gens qu'ils n'aiment pas trop.
Alors, vous posez peut-être la question du système politique. Est-ce qu'on ne serait pas dû pour des systèmes plus proportionnels qui permettraient aux familles politiques d'être plus, chacune souveraine de ce qu'elle dit sans que... Enfin, bref.
Oui, exact. Ben oui, pour plus de diversité. Et pour finir, je sais que vous voulez dire une autre chose, mais je voulais juste...
Oui, parce que le temps nous bouscule. Allez-y.
Je vais commencer une phrase qui va paraître bizarre. On a été chanceux que ce soit Trump, dans le sens que c'est un incompétent en termes de gestion. C'est-à-dire que si Trump avait été plus compétent dans la façon d'appliquer ses énormités, ça aurait été encore plus dangereux. Et ça l'a déjà été dans son incompétence pendant 4 ans. Et ce qui va venir après... Et encore une fois, Frédéric dit des trucs très intéressants aujourd'hui, mais il a mis le doigt dessus encore. Ce qui s'en vient après, qui va récupérer cette coalition, ce groupe de personnes et comment ils vont l'utiliser? Moi, ma crainte, c'est la suite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend le mode d'emploi, mais qui l'applique d'une façon plus efficace.
Chers messieurs, il nous reste à peu près 2 minutes. Parlons un instant là de Frédéric Bérard. J'aurais aimé parler avec vous de ce procès sur la loi 21, mais le temps va nous manquer. Puis comme vous êtes parti au dossier, on va sûrement pouvoir vous en parler dans les semaines qui viennent. Parlons un instant de Justin Trudeau, puisque oui. Farouk Karim est à Gatineau. C'est bien ça, je me trompe
oui,
tout le temps.
Oui.
Et qu'il suit de très près la politique canadienne. Donc, la semaine dernière, Justin Trudeau, lorsqu'il est interrogé sur les tristes événements, tristes c'est le moins qu'on puisse dire, les épouvantables événements récents en France de nature terroriste, et sur la liberté d'expression et sur la publication de caricatures représentant le prophète Mahomet, M. Trudeau s'est un peu emberlificoté dans un exposé sur les limites de la liberté d'expression, ce qui lui a donné l'image de quelqu'un qui condamnait la publication des caricature. Dans les suites de ça, Emmanuel Macron donne un coup de téléphone à François Legault pour le remercier, lui, d'avoir tenu une position beaucoup plus claire et plus catégorique sur cette question-là. Frédéric Bérard, c'est un incident diplomatique, ça, non? C'est absolument inhabituel. Et suite à quoi, d'ailleurs, M. Trudeau a changé sa position pour affirmer de façon claire qu'il ne condamnait pas la publication des caricatures. Puis je termine là-dessus. Jagmeet Singh, que vous aimez beaucoup, il me semble, lui n'a pas voulu revenir sur ses premières déclarations. Il a dit toutes sortes de choses, mais la question que je vais vous poser, c'est comment ça se fait qu'on ne peut pas en même temps dire je suis en désaccord avec la publication de ces caricatures, ou je trouve que c'est provoquant ou c'est inutile, ou moi je l'aurais pas fait, et en même temps je suis prêt à me battre pour que ceux qui veulent le faire puissent le faire. Vous comprenez? Moi, ça fait que M. Singh n'est pas capable d'aller là. Est-ce que c'est par clientélisme? Puis ensuite, Trudeau, dites-moi ce que vous pensez de l'appel de Macron à Legault.
L'excellent diplomatique, c'est Trudeau qui l'a créé. Hein. Premièrement, il a attendu 17 jours avant de répondre au terrible décès de ce prof français qui a été décapité pour avoir montré les caricatures. Et par la suite, il y a eu 17 jours pour y penser, puis tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que oui, je suis d'accord avec la liberté d'expression, dans ce cas-ci, tu me dis, je suis d'accord avec la liberté d'expression, mais c'est un peu comme si tu avais crié au feu dans un cinéma bondé. Ben, à ce moment-là, t'es pas pour la liberté d'expression. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un oxymore.
Alors, c'est une question de contexte aussi, hein. M. Trudeau s'exprimait sur un sujet précis. Donc, vous dites que l'incident venait de lui. Il s'est un peu magasiné, cet imbroglio.
Ben, totalement.
Et quant à Jagmeet Singh, parce qu'il nous reste à peu près 20 secondes, qu'est-ce que vous en pensez?
Évidemment que Singh, c'est un peu différent. Singh, Il y a une sensibilité très, 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 très accrue, si je peux dire, face aux minorités, notamment visibles, parce que lui-même est victime de racisme de manière systémique, lui, c'est le cas de le dire.
Dit-il?
Oui. Plutôt dans ce cas-ci. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre, Nick, moi, je suis content de ce débat-là. Je suis content que le feu ait pris dans la grange. Je suis content que Trudeau se soit senti obligé de reculer, parce que c'est un peu, en tout cas, à mon sens, peut-être une première défaite ou presque. Pour les woke, de manière générale, là, puis je suis pas contre les woke à 100% tout le temps, mais dans ce cas-ci, c'est du délire total. Et là, c'est un peu comme si les gens s'étaient levés et avaient dit, là, ça va faire, c'est ridicule, faire un dessin de Mahomet, on comprend que ça offense les musulmans, on comprend très bien que c'est sensible, on comprend que c'était pas nécessaire, mais c'est dommage, la liberté d'expression protège justement le discours qui déplaît, fâche et dérange. Si vous voulez un droit à la liberté de bonne expression, ben aussi bien retirer ça des chartes, ça n'existe plus, ça sert absolument à rien. Et à ce moment-là, on laissera les woke décider de ce qui peut être dit et de ce qui ne peut l'être.
En un mot, Farouk Karim, est-ce que Jagmeet Singh, comment dire, est-ce qu'il a parlé à un électorat, est-ce qu'il faisait du clientélisme ou est-ce que, d'après vous, ce qu'il a dit était approprié?
Moi, je crois qu'il y a une sensibilité, évidemment, mais je crois que c'est du clientélisme. Je crois aussi que c'est un manque de...
Autrement dit, est-ce qu'il a peur de dire franchement qu'on peut faire de telles caricatures, même si ça lui déplaît, pour des raisons de clientèle politique?
Je sais pas dans sa tête. Je crois même pas que c'est une question de peur. Je crois que dans des regroupements comme ça, tu adoptes un positionnement du groupe et c'est ça, c'est la mouvance, c'est ça notre position. C'est pour ça que j'étais très content que Frédéric écrive sa chronique parce que ça permet à des progressistes d'avoir une façon de voir les choses sans être associé aux néo-nazis ou à des gens qui sont contre, qui veulent bannir les musulmans ou peu importe.
Oui, quoique. Vous en parlez à Béra. Je pense qu'il a reçu des commentaires sur sa chronique. On parle ici d'une chronique qui dénonçait les woke. Mais chers amis, on n'a plus de temps. Retournez regarder vos réseaux américains puisque c'est aujourd'hui qu'il y a un nouveau président chez les voisins. Et merci beaucoup à vous deux, Farouk Karim à Gatineau et Frédéric Béra dans un stationnement de McDonald's à Montréal. Dans un instant, nous discutons avec Maître Guillaume Rousseau du procès sur la loi 21. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Oui, à travers toute cette actualité foisonnante cette semaine, on a relativement peu parlé des audiences qui s'ouvraient au Palais de justice de Montréal dans ce procès sur la loi 21, ce recours-là de certains groupes de citoyens contre cette loi. Peut-être que j'emploie pas les termes précis, exacts, mais vous voyez en quoi ça consiste. De toute façon, notre invité va sans doute me corriger et puis nous en dire plus là-dessus puisqu'il est partie prenante au dossier. Il s'agit de Maître Guillaume Rousseau, qui est l'avocat du mouvement laïque québécois dans cette affaire. C'est bien ça. Bonjour, M. Rousseau.
Bonjour.
C'est bien ça, hein, n'est-ce pas? Vous représentez le mouvement laïque québécois?
C'est exact. Donc, le mouvement laïque est un intervenant conservatoire, on appelle. Donc, on vient en appui au procureur général du Québec, qui, lui, représente le gouvernement du Québec, qui, évidemment, défend la loi, et nous aussi, on défend la loi, quoique avec un angle un peu particulier par rapport à celui-là du procureur général.
Quel est-il, justement? Qu'est-ce qui vous distingue, vous? Qu'est-ce que vous apportez dans le dossier?
Donc, le procureur général du Québec, lui, va plaider essentiellement les compétences du Québec, donc entre autres sur la question là, du partage des compétences fédérales-provinciales, parce que de l'autre côté, certaines personnes disent que toute la question des relations entre l'État et religion, ça relève du fédéral, donc le gouvernement du Québec plaide que ça relève plutôt du Québec, là, quand on parle des fonctionnaires québécois. Il va plaider également la disposition de dérogation, donc le fait que, par cette disposition-là qui est mentionnée dans la loi 21. On est comme à l'abri, la loi est à l'abri de certaines contestations là, fondées sur certains droits de la Charte canadienne. Donc, le procureur général, c'est beaucoup autour de ça. Alors que nous, au mouvement Laïc québécois, on représente des parents d'enfants qui ne souhaitent pas que leur enfant ait un enseignant avec un signe religieux. Alors nous, on est beaucoup plus sur la question de la liberté de conscience des enfants et de leurs parents, ce qui fait un peu notre originalité là, dans le cadre du procès.
Mm-hmm. Je fais un bref retour en arrière parce que c'est très intéressant et pertinent dans ce dossier-ci. Vous êtes l'auteur d'une étude qui parlait justement de la disposition de dérogation, ce qu'on appelle communément la clause dérogatoire là, dans les deux, ouais. dans la Constitution et dans les deux chartes, la Charte québécoise des droits et libertés et la canadienne, et traitait de l'usage de cette clause par les gouvernements successifs du Québec comme faisant partie d'une approche politique, d'une politique de défense des intérêts du Québec. Et je présume que c'est la continuité de cette démarche-là qui vous amène dans ce dossier aujourd'hui.
Oui, effectivement, tout à fait. Donc, autant l'aspect de la disposition dérogation vient beaucoup me chercher, parce que vous avez raison de le souligner, j'ai été un des chercheurs, avec Maître François Côté, entre autres, on a fait beaucoup de recherches sur cette question-là. Mais les premiers à avoir révélé que, finalement, la disposition dérogation, contrairement à ce que d'autres disaient, c'est utilisé très souvent au Québec, et c'est utilisé pour des bonnes raisons, historiquement, là, soit défendre le caractère distinct du Québec en matière de langue, par exemple, ou encore pour des questions de progrès social, pour favoriser l'égalité homme-femme. Donc, on a été les premiers à démontrer ça dans des travaux de recherche. Et ensuite, ça a pu influencer le gouvernement là, lorsqu'il a décidé d'utiliser la disposition de dérogation.
Vous avez aussi, oui, vous avez été conseiller du gouvernement dans le dossier de la loi 21. Est-ce que je me trompe?
Non, tout à fait, vous avez raison. Donc, effectivement, j'ai été conseiller juridique et politique et donc constitutionnel, entre autres, là, pour le gouvernement au moment de l'élaboration et de l'adoption de la loi sur la laïcité, dans laquelle il y a effectivement l'usage de la disposition de dérogation des deux chartes. Et maintenant, cet usage-là est contesté par ceux qui s'opposent à la loi. Et donc, moi, je plaide, entre autres, pour qu'on respecte cette souveraineté du Parlement québécois qui s'exprime par l'usage de la disposition dérogatoire. Donc, effectivement, c'est la suite de mes travaux de recherche, de mon implication en termes de conseil auprès du gouvernement et maintenant dans le cadre de ce procès-là.
Alors, c'est ça, on comprend que c'est naturel en quelque sorte pour vous. C'est une question de cohérence d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et pour que nos auditeurs nous suivent bien, là, la disposition dérogation permet à un gouvernement de se soustraire aux exigences d'une ou de l'autre ou des deux chartes. C'est ce qu'a fait. De se soustraire provisoirement, hein, je pense qu'il faut la renouveler après un certain temps. C'est ce qu'a fait le gouvernement du Québec dans le cas de la loi 21. Et comme vous le dites, donc c'est là-dessus, entre autres choses, qu'on l'attaque aujourd'hui. Sauf que là, selon les échos qu'on a des témoignages qui ont eu lieu cette semaine, par exemple, Mario Dumont écrivait, je pense, ce matin ou hier, qu'il voit là, lui, plutôt un procès contre le Québec. Une sorte de procès culturel, comme si c'était un procès canadien qui mettait le Québec au banc des accusés comme étant le mauvais élève qui ne respecte pas le dogme multiculturaliste, entre autres choses, et la vision de la diversité et de l'ouverture du Canada. Est-ce que vous avez eu cette impression-là, vous aussi? Je vous pose pas une question très difficile, j'imagine que oui.
Ben, en fait, c'est que pas nécessairement trop entrer dans la qualification des témoins ou quoi, mais je vais être très factuel avec vous. Donc,
oui, d'accord.
Effectivement, il y a une partie de la preuve, autant écrite qu'orale, par les témoignages cette semaine, donc une partie de la preuve des parties qui contestent la loi, qui consiste à dire que au Québec, il y a beaucoup de discrimination, de racisme, entre autres, contre les Arabes, contre les musulmans, et que les gens qui sont favorables à la loi sur la laïcité seraient un peu plus raciste que les autres, il y aurait comme un lien là. L'appui à la loi serait entre autres lié à des sentiments racistes. Donc, c'est ce qu'ils tentent de prouver. Puis, il faut comprendre que nous et le procureur général, on cite des études qui démontrent exactement l'inverse. Donc, nous, on cite des études qui démontrent que pourquoi au Québec, on est plus favorable à la laïcité qu'ailleurs au Canada. C'est tout simplement que le degré de religiosité au Québec est plus faible. Donc, c'est ce qui explique. Ce n'est pas le racisme, mais c'est le rapport différent à la religion au Québec par rapport aux autres provinces qui explique ça. Et les experts, on a des experts qui vont témoigner de ça et qui l'ont déjà fait par écrit. Et les experts de l'autre côté ben, disent plutôt que qu'il y a un lien entre le racisme et l'appui à la loi sur la laïcité. Donc, effectivement, je pense que c'est à partir de là que Mario Dumont propose l'interprétation là, que vous venez de résumer.
En effet. D'autres ont posé la question des moyens, laissant penser que vos adversaires, dans ce cas-ci, ou en tout cas les gens qui contestent la loi, sont très, très solidement financés, notamment par le gouvernement fédéral, et qu'il n'en serait pas de même du côté de votre côté, à vrai dire, et celui du gouvernement du Québec. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un angle mort dans ça, ou c'est une lecture exacte des choses?
Je dirais oui et non. C'est-à-dire, il y a à peu près là, tout près de 20 partis qui s'opposent à la loi contre 4 qui défendent la loi. Donc déjà, en partant, ça vous donne une idée un petit peu là, du... Et le nombre d'avocats est un peu en conséquence, là, évidemment. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a un certain déséquilibre. Par contre, il faut savoir que de notre côté, donc du côté des partis qui défendent la loi, il y a quand même le procureur général du Québec. Donc l'avocat du gouvernement avait quand même un certain budget, un certain nombre d'avocats, un certain nombre d'experts. Donc, ça permet quand même d'avoir un peu de ressources. Mais de l'autre côté aussi, ils ont beaucoup de budget. Il y a un organisme fédéral, on l'oublie souvent, mais il y a la Commission canadienne des droits de la personne qui prend des avocats là, qui très, très connus, qui chargent des montants d'honoraires très importants. Là. Et il y a des syndicats, donc encore là, des puissants, des groupes très puissants avec beaucoup, beaucoup de financement, Commission scolaire English Montreal. Donc, de l'autre côté, ils sont beaucoup de joueurs très puissants avec financement public, entre autres. De l'autre côté, il y a un joueur relativement puissant, le procureur général, mais les autres partis, dont le mouvement laïque, dont Pour les droits des femmes et Libre penseur athée, c'est tous des petits organismes à but non lucratif qui ont très, très peu d'argent. C'est d'ailleurs pourquoi nous, au mouvement laïque québécois, on est même en campagne de financement, parce que sinon, mon client ne pourrait pas payer tous les frais là, que ça représente, ce procès-là. Alors, je me permets de mentionner à vos auditeurs là, que notre adresse de la campagne de financement, c'est www.jedonne21.ca, parce qu'on a vraiment besoin de l'aide de tout le monde, parce que contrairement à des commissions scolaires ou une commission des droits de la personne, on n'a pas de financement public. Alors, pour se rendre le coefficient jusqu'en Cour suprême, ça va coûter extrêmement cher.
Message
est... un petit peu un portrait là, des forces en présence.
En effet.
Il y a un léger déséquilibre, je pense qu'on pourrait le qualifier comme ça.
Et puis en plus, une adresse Internet en prime. Alors, ceux qui voilà. Se sentent concernés la prennent en note ou retournent l'écouter en reprise sur notre site. Dites-moi, Maître Guillaume Rousseau, quels sont, en terminant, là, les tenants et aboutissants de tout ça? Qu'est-ce qui peut arriver dans le cas d'une, par exemple, d'une décision défavorable de la Cour qui dit oui, effectivement, cette... Alors, quelle serait une décision défavorable? Comment on formulerait ça? Ce serait, on dirait que ça toucherait la question de la disposition de dérogation ou on irait sur le fond de l'affaire?
Ben, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs types de décisions défavorables qui pourraient arriver. Dans le pire des cas, on pourrait dire ça relève pas de la compétence du Québec, c'est de compétence fédérale, et là, toute la loi tomberait. Dans un autre cas, on pourrait dire, ben finalement, non, c'est la compétence du Québec, mais par tel moyen détourné, on permet de contourner la disposition de dérogation, et dès lors...
On invaliderait en quelque sorte le recours à la disposition de dérogation.
C'est ce que tente de plaider, et c'est pas du tout conforme à l'état du droit actuel, là, mais les partis qui plaident contre la disposition de dérogation là, veulent renverser l'état du droit actuel là, pour pouvoir permettre le contournement de la disposition de dérogation.
Alors ça touche seulement certains pans de la loi, non?
Oui, effectivement, c'est ça. Les arguments de charte, là, c'est beaucoup moins contre l'ensemble de la loi que contre deux éléments, c'est-à-dire l'interdiction du port de signes religieux pour certains fonctionnaires représentants de l'État en autorité et la règle des service public à visage découvert. Donc ça, c'est un jugement pour réduire l'ensemble de la loi est valide et relève des compétences du Québec, mais ces deux aspects-là sont invalides pour telle raison.
Qui sont des aspects symboliques très, très forts du reste.
Exactement, on s'entend. Vous avez tout à fait raison, c'est vraiment ça qui est au cœur du débat. Sinon, une autre question, c'est que la Commission scolaire English Montreal plaide que ça ne devrait pas s'appliquer aux anglophones, aux commissions scolaires anglophones, parce qu'ils ont une espèce de droit constitutionnel là, à l'autonomie de gestion de leur école, qui, ce droit-là, échappe à la disposition de dérogation. Donc, on pourrait avoir une invalidation de la loi, là, ou du moins une déclaration d'inopérabilité très, très ciblée sur les commissions scolaires anglophones. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Fait qu'il y a plein de possibles jugements défavorables à la loi. C'est peu probable, là, parce que franchement, c'est eux qui ont le fardeau de preuve, il est lourd, mais c'est pas complètement impossible. Et dans tous les cas, que le jugement soit favorable ou défavorable à la loi, ça risque d'aller en appel. Le juge l'a même mentionné lui-même.
Alors, dans un premier temps, ça peut nous mener quand pour une première décision?
Donc, le procès se déroule, a commencé donc la semaine dernière, se déroule jusqu'au début du mois de décembre. Si on prend un petit peu de retard, que les interros sont plus longs que prévu, ça pourrait aller à la mi-décembre. Donc, on peut s'attendre à une décision peut-être en février ou en mars dans ce coin-là. Ensuite, 30 jours pour aller en appel. Et donc, voilà, la décision devrait arriver soit à l'hiver ou au début du printemps.
J'ai dit en terminant, il y a deux minutes, mais cette fois-ci, je vous promets que c'est vrai, en terminant, Maître Rousseau, comment estimez-vous qu'on en soit venu cette semaine à relativement peu parler de ce dossier-là? Je sais qu'on vous a entendu, vous, d'ailleurs, dans quelques médias, mais est-ce que c'est à cause de l'actualité? C'est tout de même étonnant parce que la loi 21 a été au cœur de nos débats pendant plusieurs mois et avant elle, la charte des valeurs du Parti québécois, puis tout ce débat-là entourant le port de signes religieux. Puis cette semaine, c'est assez largement passé en sourdine. Comment ça se fait?
Ben, je pense que l'actualité était très, très chargée cette semaine. Il faut se souvenir que le procès commençait lundi. Moi, je m'attendais à une grosse couverture médiatique lundi. Et il y a eu les événements à Québec avec ces meurtres sordides ici qui sont survenus là, un peu avant. Donc lundi, les journalistes étaient beaucoup là-dessus. Mm-hmm. Le reste de la semaine, c'était évidemment l'élection américaine. Donc je pense que le contexte a un petit peu mal servi la couverture médiatique du procès. Par contre, je vous dirais que les médias anglophones ont quand même plus parlé. Ils étaient les premiers à me solliciter dès la semaine dernière, avant même le procès. Alors moi, j'invite les médias francophones et je vous remercie, vous, en particulier, de faire votre travail, de couvrir le procès. J'espère qu'il y aura plusieurs médias francophones qui font le travail aussi, parce qu'on sent que la couverture était plus forte du côté anglophone.
Maître Guillaume Rousseau, on accepte les fleurs et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Maître Bérard qui est parmi nos collaborateurs, qui aura sans doute un propos là-dessus puis qui pourra donner une adresse Internet lui aussi. La semaine prochaine.
Oui, il est beaucoup d'outils, je pense, pour la Fédération autonome de l'enseignement.
Exactement. C'était Maître Guillaume Rousseau, donc il est l'avocat du mouvement laïque québécois dans cette cause. Merci beaucoup, Maître Rousseau. Dans un instant, chers auditeurs, Mathieu Bock-Côté sur l'élection américaine et plus largement la compréhension du phénomène qu'on pourrait dire populiste par l'élite. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Les chroniqueurs, essayistes, sociologues, vous pouvez le lire dans le Journal de Montréal, lire ses nombreux ouvrages, donc dont le plus récent, L'Empire du politiquement correct, où est-ce qu'il me manque une partie du titre que je n'ai pas sous les yeux? Demandons cela à l'auteur, Mathieu Bock-Côté. Bonjour, Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
C'est bien ça, hein? C'est L'Empire du politiquement correct. Est-ce qu'il m'en manque une?
L'Empire du politiquement correct, sous-titre, essai sur la respectabilité politico-médiatique.
Ah oui, ben alors, on est vraiment dans votre sujet quand on parle de Donald Trump, je pense. En tout cas, on y est, puis peut-être qu'on est dans d'autres choses aussi. C'est ce que je veux voir avec vous. Vous théorisez depuis plusieurs années, Mathieu Bock-Côté, ce clivage peuple élite, pour choisir des termes que vous pourrez corriger si vous le voulez. Il y a toutes sortes de débats autour des mots, évidemment, mais donc ce clivage entre par exemple, ce progressisme universitaire, bon chic, bon genre, des zones urbaines qui regardent de haut la campagne, qui vote pas comme elle le voudrait. Est-ce que c'est bien de cela dont il s'agit? Est-ce que c'est de cela dont il faut parler en premier quand on regarde ce qui vient de se produire aux États-Unis?
En partie seulement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, d'un côté, l'unanimisme, sauf Fox News, évidemment, du système médiatique contre Trump, qui était présenté un peu comme une espèce d'intrus au cœur des institutions qu'il fallait expulser pour que le régime puisse reprendre son fonctionnement. Et de l'autre côté, une base populaire beaucoup plus forte qu'on ne le dit, associée au, pas seulement, soit dit en passant, aux fameuses classes populaires blanches, comme on nous dit, mais qui a une certaine croissance chez les Hispaniques, plus fort que les anciens et les autres républicains chez les Noirs. C'est un élément, mais le système médiatique peine à se représenter la légitimité, appelons ça, de l'adversaire. Donc, on le présente, on le fascise, on l'extrême-droitise, on le diabolise. Ensuite, il y a deux éléments. C'est-à-dire que le personnage Trump soit ubuesque, grossier,
histrionique, peut-être.
Oui. Histrionique, oui. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai qualifié dans le journal, dans le Figaro ce matin. Histrionique sans le moindre doute. Mais ce qui me frappe, c'est l'incapacité à comprendre pourquoi des électeurs, sans enthousiasme, mais sans hésitation, ont voté pour lui. Depuis 4 ans...
À côté de ceux qui votent avec enthousiasme, bien sûr, parce qu'il y en a également.
Il y a ceux qui votent par enthousiasme, ça c'est une chose, et il y a ceux qui votent en se pinçant le nez, c'en est une autre. Mais ceux qui votent sans enthousiasme, et je le dis sans hésitation, c'est quand même l'essentiel du cas de son électorat. Donc, au début, je vous rappelle, 2016, quand il est élu...
Mais là, vous venez de dire ça comme si ça allait de soi, comme si de rien n'était, mais c'est pas le portrait qu'on brosse généralement. On parle plutôt d'un électorat analphabète, ignare.
En 2016, lorsqu'il est élu, coup de choc dans le système médiatique où on se dit, ah là là, il y a toute une partie de l'Amérique qu'on ne comprend pas, il faut la comprendre. Et là, au bout de quelques semaines, cette bonne intention, presque ethnologique, qui sont ces gens qui ont cette étrange particularité de ne pas penser comme nous, eh bien, véritablement, on passe à l'accusation. Donc, l'Amérique trumpiste, c'était l'Amérique raciste, l'Amérique du suprémacisme blanc, l'Amérique du fascisme, de l'extrême droite. Et là, ensuite, on a, au fil du temps, depuis 4 ans, on a chercher à délégitimer l'élection, en disant que c'était soit grâce au génie maléfique de Steve Bannon, soit c'était Cambridge Analytica qui n'était pas sans lien, soit c'était les Russes. Bon. Et ces derniers temps, depuis un an, c'était QAnon. C'est-à-dire là, c'était la base QAnon, une collection de fous furieux qui s'imaginaient que les démocrates étaient des pédos satanistes et tout le tralala. Bon. Et là,
mais ils existent, ceux-là. Est-ce que c'est pas une partie du problème?
Oui. Bien sûr qu'ils existent, il n'y a pas de doute là-dessus. Toute la question est de savoir si cette mouvance marginale et toxique est représentative de l'essentiel de l'électorat. Même chose, il y a quelques jours, mardi, pendant quelques 24 heures, 48 heures, le commentariat aligne une série de phases de carême parce que là, ils sont effondrés, puis là, ils se répètent entre eux. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a pas vu venir. Il faudrait comprendre cette Amérique. Qu'est-ce que c'est que cette Amérique? Au bout de 48 heures, c'était déjà oublié, d'autant que le sentiment de la victoire revenait. Et là, c'était comment ont-ils osé voter pour un homme aussi toxique, aussi inacceptable? C'est qu'on appelait, c'était le retour de l'Amérique raciste, du réflexe, du manque d'empathie des blancs. Puis bon, on connaît la cassette. On dit que le trumpisme a gagné, donc c'est la haine qui a gagné. C'est le manque de respect pour l'autre. Et là, moi, devant tout cela, je me dis, ces explications moralisatrices-là nous empêchent de comprendre ce qui se joue, pas seulement aux États-Unis, soit dit en passant, bien que le trumpisme en tant que tel était très américain. C'est l'opposition au déploiement de la mondialisation, de l'immigration massive, du régime diversitaire en général. Puis moi, j'essaie de dire, il faut simplement se passer dans la tête de l'électorat américain depuis 6 mois. Non, juste de 6 mois, même pas 4 ans. Qu'est-ce qu'il voit? Des émeutes à répétition qu'il faut toujours présenter comme si elles étaient légitimes et qui a des réserves sur les émeutes et fondamentalement un fasciste et un raciste.
Oui, légitime, noble, vertueuse.
Admirable. Ouais. De la même manière, ils n'ont aucunement pas critiquable du tout. Le délire universitaire, c'est-à-dire véritablement ce lieu du néo-maoïsme que représente l'université aujourd'hui, c'est ce lieu d'un authentique fanatisme à la fameuse religion woke qui est déconfinée et contamine aujourd'hui l'ensemble de la culture. On peut parler parler plus largement des médias qui sont dans une logique de rééducation systématique généralisée de la population. Alors, on peut comprendre qu'une partie de la population dise, bon, ben, il est fou, il fait du théâtre, il multiplie les phrases délirantes, mais globalement, il tient tête à ces gens-là, à ces excités-là, cette gauche radicale. Des gens qui se disent, ben, c'est quoi, entre deux mots, est-ce qu'on préfère le César histrionique ou est-ce qu'on préfère la gauche radicale qui contrôle les institutions universitaires, une bonne partie des médias, le commentariat et ainsi de suite.
Là, Mathieu Bocoté, on n'est pas dans...
se tourne ainsi, je dis pas pour l'embrasser ou pour le l'anoblir, je dis tout le temps pour comprendre la psychologie de l'électorat trumpiste et cette Amérique qu'on ne comprend pas, mais cette France qu'on ne comprend pas, parce qu'on parle en France de la France périphérique, il y avait des gilets jaunes, il y avait autre chose.
Bien sûr, ou même lorsqu'on parle du vote pour le Front National.
Tous les gens bien au-delà du Front National, et même au Québec, les gens qui ont le culot d'être contre les accommodements raisonnables, contre l'immigration massive, qui pensaient pas, qui voulaient pas endosser la censure qui venait de l'Université d'Ottawa, et bien tout cet électorat-là, on le pathologise, on le psychiatrise, on le phobise, on le criminalise. Me semble-t-il que pour être capable d'avoir un débat civilisé, éclairé, il va falloir accepter de réintégrer dans la conversation démocratique ceux qu'on préfère fasciser ou extrême droitiser. Pour l'instant, c'est assez difficile à penser.
Il n'en demeure pas moins qu'on parlait d'histrionisme, je ne sais pas si le mot existe, mais enfin, M. Trump, cet ahuri, ce spécimen particulier, est-ce qu'il n'y a pas des limites, justement, à le faire entrer dans le cadre d'analyse que vous venez de nous présenter, non pas que je le conteste, mais parce que Trump, c'est Trump, et vraiment, il y a aussi le Trumpisme qui s'auto-suffit, qui est désaffilié de tout fondement idéologique, au fond, et même politique. C'est un sentiment, c'est une émotion. C'est M. Trump est une vedette médiatique depuis des années aux États-Unis.
On est devant un phénomène très américain. Oui. On est devant la quintessence de la vulgarité américaine, la quintessence de la brutalité américaine. On est devant un personnage qui lui-même n'est pas, on appelle ça un esprit subtil et raffiné.
Ben, on peut se poser la question du trouble de personnalité narcissique, notamment.
Oui, mais ça, à ce compte-là, moi,
je sais que vous n'aimez pas qu'on psychiatrise.
Non, moi, je voudrais qu'on questionne en même temps l'état des facultés cognitive, par exemple, de Joe Biden qui est élu président. Si on joue sur ce terrain-là, il faut jouer sur ce terrain-là pour tout le monde. Si on fait jouer à ça, j'aimerais qu'on fasse un test de culture générale pour Justin Trudeau. Hein? Il faut le faire pour tout le monde. Oui. Parce que sinon, on se flatte la vanité médiatique. Et puis, il faudrait le faire pour bien les commentateurs. Quand Van Jones, dans tout le monde aujourd'hui, commente sur Twitter la phrase émue de Van Jones, l'ancien proche d'Obama qui commente à CNN en disant « Oh, qu'il est merveilleux ce Van Jones », il ne faut pas oublier qu'au moment de l'affaire Floyd, il a dit que tous les Blancs avaient le virus du racisme dans la tête.
Oui, bon, oui.
Alors, moi, ça ne me dérange pas de faire ces tests-là. Mais on les fait à tout le monde, ou on les fait à personne. Et puis, une fois que c'est dit, le phénomène Trump, il y a deux éléments. Oui, il y a la personnalité singulière de ce personnage de mauvaise comédie, de ce Néron américain. Parfait, on peut le dire. On peut le critiquer. D'ailleurs, plusieurs ont fait une critique très vive. Et puis souvent, chez les conservateurs américains, plusieurs disent on aurait préféré avoir un autre porte-parole. Comme ça. Mais il y a l'autre chose qu'il faut étudier, c'est le sentiment d'aliénation d'une partie de l'électorat qui est capable de surmonter son aversion et qui en vient à voter pour lui. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi en viennent-ils à accepter de voter pour lui malgré tout?
Oui, alors vous êtes en train de nous dire que le rejet de l'élite progressiste est à ce point, entre autres, est à ce point fort, et aussi peut-être du mondialisme et des nouvelles politiques qui mènent à une sorte de déclassement économique pour bien des gens est tellement fort qu'on est prêt à voter pour ce spécimen particulier, c'est ce que vous me dites?
Oui, je crois que ça fait partie de l'analyse. Mais on refuse de faire cette analyse parce que ça nous obligerait à consentir qu'aucun camp n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Moi, ça me frappe, et ça, j'y reviens toujours parce que ça m'obsède. On est dans la mythologie progressiste qui consiste à dire qu'il y a les options légitimes puis les options d'arrière-garde. Donc, il y a l'avenir et puis lumineux, et il y a le bois mort de l'humanité. Et là, on n'accepte pas cette idée qu'il y a une pluralité irréductible de valeurs en démocratie, de vision du monde. Et dans le cas de Donald Trump, l'histrion Trump, certains disent, ça se voit comme commentaire, que pour être capable de tenir devant le système, devant sa brutalité, parce qu'il y a un système quand même, eh bien, une personnalité relativement équilibrée de républicains correctement cravatés, eh bien, il s'effondre au bout de quelques... Il faut avoir une personnalité trouble pour être capable de tenir devant le système. Et une fois que j'ai dit tout ça, puis ça fait explique peut-être, soit dit en passant, l'appui de certains qui se disent devant les professeurs à mi-donner, eh bien, cette espèce d'hurlu-berlu...
Non, il fallait un fou. Ouais, ouais.
Oui, mais donc, ça de survitamine. Qui surjoue la virilité, eh bien, ils y ont vu finalement une ressource, une possibilité de s'opposer au système. Alors, quand on prend ça en compte, ça exigerait, me semble-t-il, de faire cette analyse électorale-là avec un minimum de bonne foi dans le questionnement des motifs des uns et des autres. Et ce qui avait précisé d'analyser la bonne foi de ceux qui ne peuvent pas sentir Trump, il n'y a pas de souci avec ça. Mais tous ceux qui ont décidé de voter pour lui malgré tout, eh bien, ça, moi, les faces de carême de commentateurs qui sont en fait des militants de ces universitaires qui, comme le disait Eric Bédard, portent leur diplôme et leur chaire de recherche comme des vieux gradés soviétiques portaient leur médaille, eh bien...
Oui, plutôt que de chercher à comprendre, disait-il.
Minimalement, une forme d'autocritique intellectuelle. Et ils n'en sont pas capables ou ils ne le désirent pas parce qu'ils sont incapables de se représenter l'autre politique. C'est un genre qui parle toujours d'ouverture à l'autre. Eh bien, le seul autre qu'ils veulent pas rencontrer, c'est celui qui ne pense pas comme eux.
Mais c'est...
On peut comprendre la capacité de répulsion de la cancel culture, c'est politiquement correct. On nous parle du fait que M. Trump a inventé une réalité alternative, et c'est vrai. Manifestement, il vient dans un monde parallèle. Nous, il faut savoir que les universités américaines viennent aussi un autre monde parallèle où on a des critiques, les hommes et les femmes n'existent pas, et qu'on vivait dans le monde de la fluidité de genre.
Alors, l'un étant le miroir. Oui, oui, la réponse à l'autre.
On est en fait le monde parallèle, c'est aussi un monde que de critiquer les hommes et les femmes n'existaient pas au nom de la lutte contre toutes les discriminations imaginables.
Il nous reste, Mathieu Bocoté, il nous reste une minute.
Il va falloir être sévère des deux côtés si on veut comprendre un peu.
Et il nous reste une minute. Est-ce qu'on peut imaginer le Trumpisme ou beaucoup plus largement les divers populismes qui se déploient en Occident à évoluer vers l'avènement de représentants politiques qui permettraient qu'on fasse vraiment le débat au lieu de s'attarder sur leur personnalité?
On va voir s'ils sont capables de quitter la culture tribunicienne et s'ils sont capables de développer une culture de gouvernement. On va voir s'ils sont capables de développer une capacité d'action qui ne soit pas dans cette espèce de style survitaminé à l'américaine. De ce point de vue, on va voir ce qui se passe en Europe. C'est pas gagné. Mais on l'a vu avec le Brexit, cela dit, il est possible d'avoir, à un moment donné, une politique nationale de gouvernement qui ne soit pas simplement l'expression d'une protestation qui peine à se rationaliser. Donc non, je pense que c'est l'époque va vers la reconfiguration de la vie politique. Il va falloir accepter que dans la politique, il y a toujours au moins deux camps.
Mathieu Bocoté, chroniqueur, sociologue, essayiste, vous êtes dans un... À quel événement participez-vous aujourd'hui? C'est un colloque.
Le colloque de l'Institut de recherche sur le Québec sur nationalisme économique et démondialisation. Je fais une présentation sur les nouveaux clivages politiques qui viennent dans l'univers mondialisé. Comme quoi, tout ceci.
Et voilà, tout est dans tout, comme disait un grand intellectuel. Oui, oui, c'est vrai.
Bonne journée.
À vous aussi. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de cette édition de Société. On vous souhaite de profiter de cette belle journée, hein, franchement radieuse. Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine.